France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec David Gourion.
Sommes-nous sur la même longueur d'onde ? Klimt, la mère et l'enfant. Souvenez-vous de ce tableau. La main délicate de l'enfant posée sur le sein de sa mère. Le velouté de la joue, la tendresse du peau à peau. La somptueuse beauté des visages aux yeux clos. Baudelaire semble veiller sur ces deux êtres. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Nous sommes des êtres de lien, infiniment, éperdument. Quelle place tient notre inconscient dans notre capacité à nouer des liens? Pourquoi nous sentons-nous parfois immédiatement en osmose avec une personne que nous ne connaissions pas quelques minutes plus tôt, comme si cette personne était connue de nous depuis toujours? Que ce soit dans le coup de foudre amoureux, la naissance d'une amitié pour la vie, ou dans la rencontre avec un soignant, quelque chose vibre. Mais quoi? Qu'y a-t-il de commun entre ce qui lie Roméo et Juliette, Montaigne et la Boétie, ou Sigmund Freud et Anao? Le psychiatre que je suis va tenter, sinon de répondre, du moins de vous proposer quelques pistes de réflexion qui convoqueront tour à tour les neurosciences, avec les résultats de fascinantes recherches récentes en hyperscanning, et je vous expliquerai un tout petit peu ce que c'est, vous allez voir, c'est très simple, qui montre comment le cerveau de l'enfant se synchronise avec celui de sa maman. Mais aussi, nous aborderons la clinique des troubles de l'attachement avec le cas emblématique d'une jeune patiente, que je nommerai ici Juliette, jeune femme souffrant d'un trouble à personnalité limite ou borderline, qui va beaucoup mieux aujourd'hui. Et puis, nous parlerons aussi de l'un des grands maîtres de la psychanalyse anglo-saxonne, en l'occurrence Winnicott. Sans oublier les premiers psychologues de la relation que furent indéniablement Montaigne et la Boétie. Après avoir partagé avec vous ces réflexions, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
L'inconscient, avec David Gourion, sur France Inter.
Et justement, qu'est-ce que le lien? Qu'est-ce qu'un ami? Très tôt, Montaigne nous met en garde contre les fausses amitiés, ces relations où la flatterie et l'intérêt ont toujours leur rôle à jouer. Comme La Rochefoucauld l'écrivait un siècle plus tard dans ses Maximes, l'amitié n'est qu'un commerce où notre amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner. C'est plutôt pessimiste. Au contraire, l'amitié qui unit Montaigne à la Boétie est différente. Elle résulte de l'élan spontané, sincère, de deux âmes pures que tout prédestine l'une à l'autre. Mais Montaigne est prudent, il nous prévient. Ne vous méprenez pas. L'amitié vraie, c'est l'exception. La plupart des liens sont marqués par la domination. C'est le côté obscur de la relation, sombre, parfois destructeur, dans certains de nos liens d'attachement les plus intimes, dont les déterminants sont parfois la manipulation, le chantage affectif, l'emprise, et qui sont sous-tendus par une dimension de domination utilitariste, nous pourrions même dire, avec la Boétie, politique. Je le cite, « Le tyran n'est jamais aimé ni n'aime, et nous lui vouons une servitude volontaire. » Ils s'entrecraignent, écrit-il au sujet de ces fausses amitiés où l'on est au mieux complice de l'autre, au sens de comploteur. À l'opposé, ce n'est qu'entre gens de bien que nous pouvons rencontrer une forme parfaite d'amitié. Je cite toujours, ils s'entraiment, c'est joli comme terme. La Boétie utilise des néologismes, et en particulier, il utilise le terme d'équalité pour qualifier ce que c'est qu'une vraie amitié, et notamment cette dimension d'estime, d'admiration entre compagnons. L'amitié, pour lui, est impossible si l'un des deux domine, car sans ce rapport d'égalité, d'équalité, seule existe une relation de type maître-esclave. Ainsi, l'amitié se définit-elle comme une relation tout rapport de domination et d'avance exclue. Seule l'admiration réciproque, c'est-à-dire l'estime, est la cause principale de l'amitié, et on ne saurait avoir pour ami quelqu'un qu'on n'admire pas ou qu'on domine. Si pour la Boétie, la relation d'emprise, cette soumission au tyran est volontaire, j'ajouterais qu'elle n'en est pas pour autant tout à fait consciente. Elle est même, et la pratique clinique nous le confirme bien souvent, totalement inconsciente. C'est le cas lorsque nous demeurons, malgré nous, bloqués, empêtrés dans la toile d'araignée de liens dysfonctionnels, parfois dans nos familles, parfois dans notre vie sentimentale, ou dans certaines amitiés douloureuses, sans même prendre conscience de leur profonde toxicité. Et qu'est-ce qui fait que parfois ce lien d'attachement qui semblait si solide s'abîme, s'attaque, ou bien se renoue, s'étiole, puis se rompt? Pourquoi certains d'entre nous ont-ils d'ailleurs globalement tant de difficultés à maintenir des liens stables et solides, se déchirant en relations sentimentales toutes plus chaotiques et destructrices les unes que les autres?
Tu comprends? Tu es cinglé!
Et toi, tu veux que je te dise ce que tu es?
Oui.
Tu es écœurant!
Oh ouais.
Tu ne m'auras pas, Franck! Sous prétexte que tu m'as enfermé dans ton sale petit piège, tu crois que tu as le pouvoir de me faire ressentir les choses selon ton
pouvoir? Toi, tu te sens piégé!
Oui!
Toi,
oui.
Tu te sens piégé!
Moi,
non, mais
Franck,
je rêve!
Moi.
Ne me fais pas rire,
espèce de grand gamin! Non, mais pour qui tu te prends? Regarde-toi! Regarde-toi et dis-moi, d'après quel délire de ton imagination tu oses encore te dire un homme? Dis-le-moi!
Qu'est-ce qui caractérise, on les connaît tous, ces personnalités difficiles, conflictuelles, qui semblent parfois se nourrir du conflit, dans ce qui ressemble à un cycle autodestructeur sans fin? Que se passe-t-il dans l'inconscient de ces scisives du cœur qui, inlassablement, traînent le boulet de leurs peines amoureuses? Faisons un détour par la clinique et nommons cette jeune patiente Juliette. Elle est étudiante, elle est brillante, magnifique. Sa vie amoureuse, malheureusement, s'éparpille entre de multiples Roméo de bistrot, souvent violents, le tout émaillé de crises de violence, de scènes destructrices, telle une boule de flipper maltraitée dans des relations chaotiques. Et pour compléter ce tableau clinique de bruit et de fureur, Juliette est une hypersensible, dont la vie émotionnelle ressemble furieusement à la météo des Côtes d'Armor. Cieux sombre et orageux, alternant avec soleil et radieux en fin d'après-midi, puis brume, tonnerre et nuages noirs et menaçants en début de nuit. Au point d'ailleurs qu'elle se croit bipolaire. Alors qu'en réalité, elle est borderline, c'est-à-dire qu'elle souffre d'un trouble à personnalité limite, caractérisé par de l'impulsivité, des mises en danger répétées, en particulier dans le domaine de la sexualité, de l'abus d'alcool et de drogue, des automutilations, un sentiment de vide intérieur, des relations instables et chaotiques. Elle me fait inéluctablement penser à un personnage de Pedro Almodovar, Attachement. Tiens, et à propos des liens d'attachement, qu'est-ce qui cloche dans l'inconscient de Juliette, qui sur le papier a pourtant vraiment tout pour être heureuse, et qui pourtant se sent tellement misérable et malheureuse? Eh bien, revenons justement à la question des liens et de l'attachement. C'est John Bowlby, le père fondateur de la théorie de l'attachement, qui s'est très tôt intéressé aux conséquences des séparations précoces des enfants d'avec leurs parents. Il travaille auprès d'enfants placés à la campagne durant la Seconde Guerre mondiale et publie son étude sur 44 jeunes voleurs, leur personnalité et leur vie de famille, dont il relate les séparations prolongées et répétées d'avec leur mère dans la petite enfance. Il s'inspire d'ailleurs des recherches menées par l'éthologue Conrad Lorenz, qui a développé le concept d'empreinte, montrant qu'un caneton, lorsqu'il sort de son œuf, lorsqu'il éclot, s'attache au premier individu, même si c'est un être humain qu'il rencontre, et cet individu va devenir son refuge, il va le suivre partout, ne plus le quitter d'une semelle. Un vrai pot de colle. Ceux qui ont des enfants en bas âge voient immédiatement de quoi je veux parler. C'est cela l'attachement. Vous êtes l'une des figures d'attachement principales de votre enfant. L'attachement, c'est ce besoin primaire qui, dans une pure logique darwinienne, est essentiel à notre survie. Dans la jungle, perdre sa maman, c'est se perdre, c'est mourir. Mais revenons un instant sur Donald Winnicott, car il tient parmi les grands de la psychanalyse une place tout à fait à part. Sa formation de pédiatre britannique lui permet une approche très pragmatique, dénuée de tout dogmatisme théorique abscon. Ces nombreux textes sont rédigés dans un langage simple et accessible qui capte d'emblée l'attention du lecteur et nous embarque. Eh bien, Winnicott, c'est l'une des figures majeures de la psychanalyse de l'enfant. Célèbre pour des notions comme le holding, ce terme un peu intraduisible en français, qui correspond au portage du bébé, mais pas uniquement au sens physique, mais également à la notion de construction d'un lien émotionnel conscient, inconscient, global et corporel, mais qui a aussi beaucoup écrit sur l'importance du jeu. Winnicott avait l'habitude d'utiliser le squiggle, ou gribouillage, qui consiste à dessiner à deux avec l'enfant en partant d'un petit gribouillis pour faire émerger ou plutôt co-construire un dessin à deux. Et puis, on lui doit aussi cette compréhension de l'importance du doudou. Il parlait du concept d'objet transitionnel, c'est-à-dire la fonction du doudou, premier objet choisi par l'enfant, en général à partir de 6 mois, qui le rassure et qui lui permet, même lorsque sa mère est absente, de la sentir encore symboliquement présente. C'est à lui qu'on doit aussi le concept de mère suffisamment bonne, par opposition à une mère trop bonne, c'est-à-dire parfaite. Et bien donc, Winnicott a beaucoup travaillé sur l'établissement du lien entre la mère et l'enfant. Et dans son livre « L'enfant et sa famille », il écrit « Le bébé ne désire pas tant qu'on lui donne un repas convenable, à un moment convenable, que d'être nourri par quelqu'un qui aime le nourrir. Le bébé considère comme naturel la douceur de ses vêtements et la bonne température de l'eau du bain. Il en va autrement du plaisir de la mère qui accompagne l'habillage et le bain du bébé. Si ces choses font plaisir donc à la mère, c'est pour l'enfant comme le soleil qui se lève. Le plaisir de la mère doit être là, sinon tout est mort, sans utilité et mécanique. » Or justement, Juliette, petite fille, fut délaissée par une mère alcoolique, violente et un père absent. Ce qui devait la conduire à justement avoir tant besoin de chaleur affective, de réconfort, de protection, de stabilité. Elle n'avait pas eu le holding de la mère suffisamment bonne dont parle Winnicott. Et pourtant, et comme c'est souvent le cas, paradoxe des paradoxes, elle ne tombe amoureuse que de super bad boys, de sombres brutes, de psychopathes, tout droit sortis des films des frères Cohen qui ne lui arrivent pas à la cheville, dans une inlassable répétition de schémas d'abandon, d'abus, d'abnégation, de maltraitance. Et elle se trouve nulle, elle s'en veut d'autant plus qu'elle a parfaitement conscience de ses schémas. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Voilà ce qu'elle me dit, Juliette, en entretien. Et voilà, on répète ce schéma qui nous est familier depuis l'enfance, comme si le scénariste réécrivait toujours la même histoire. Juliette s'est construite en faux self, c'est-à-dire derrière un masque fragile, contrefait, une sorte de masque en contreplaqué, qui lui permet, croit-elle en tout cas, de se protéger derrière un rempart, mais qui en réalité l'enferme dans un cercle vicieux relationnel dont elle est la malheureuse prisonnière. Au fond, elle ne sait même pas qui elle est, cette pauvre Juliette. Et son identité personnelle, elle n'en a pas de conscience, elle s'adapte, elle s'ajuste en permanence à l'autre. Alors comment sortir de ce cercle vicieux? Eh bien, c'est évidemment tout l'enjeu de la thérapie. Et Juliette se sent très à l'aise dans mon cabinet, trop d'ailleurs. Et elle a cette phrase dès la première consultation qui m'inquiète. Ici, docteur, je me sens comprise, enfin, vous êtes géniale. Et moi, je sais, pendant qu'elle me dit ça, qu'elle crée un lien trop fort, trop rapide. Elle m'idéalise. Je sais que ça ne va pas durer. Souvenez-vous du temps en Bretagne dont je vous parlais tout à l'heure. Je sais aussi que dans quelques séances, elle va même profondément me détester, me trouver nulle, non avenue, switchant brutalement l'idéalisation du thérapeute à sa dévalorisation excessive. Stendhal aurait opiné du chef. En thérapie comme en amour, après la phase de cristallisation vient la décristallisation, tout comme dans sa vie réelle. Je cite Stendhal, « Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. L'objet aimé est parfait et puis petit à petit on décristallise et il devient horrible. » Et c'est ici, dans le cadre sécurisé de la relation thérapeutique, que vont se jouer les danses complexes du transfert et du contre-transfert d'inconscient à inconscient. Bien évidemment, Juliette va attaquer notre lien, le tester jusqu'aux limites de ce qu'elle pense être ma tolérance, avec une certitude bien ancrée en elle. Il me rejettera comme tous les autres, car je suis une moins que rien, et puisqu'elle est persuadée que je vais finir par l'abandonner, l'invalider, eh bien à quoi bon faire des efforts ? Elle manifeste donc dans les entretiens avec moi toute l'agressivité, le dénigrement, la violence qu'elle a subie et dont elle pense qu'elles me feront bien vite jeter l'éponge. Elle teste mes limites. Et comme je tente de demeurer calme, impavide, la recadrant gentiment mais fermement quand il le faut, sans pour autant lui faire de préchi-précha, eh bien elle finit par expérimenter quelque chose du registre peut-être, je sais pas, de la sécurité, la bienveillance dans le lien, même un lien difficile. Quelque chose, peut-être, d'une figure d'attachement suffisamment bonne. Enfin, quelle découverte inédite pour elle. Elle s'autorise peu à peu à tomber le masque, à livrer ses profondes craintes d'abandon, de maltraitance qui la mine en permanence. La honte invincible et sourde qui l'étreint, l'angoisse de déréliction quand le sol se dérobe sous ses pieds. Winnicott aurait sans doute dit à Juliette, et je le paraphrase, « Ne craignez pas l'effondrement, Juliette. Il a déjà eu lieu. »
L'inconscient avec David Gourion sur France Inter.
Mais rendons à César ce qui est à César. Le concept de transfert en psychanalyse a été introduit par Sigmund Freud. Et je le cite, « Nous n'aurions jamais pu soupçonner à quel point le transfert était puissant et dans quelle mesure il était possible d'exclure la perception de la réalité s'il ne s'était pas démontré d'une manière infaillible et immédiate lorsque nous avons appris à utiliser le transfert en tant que moyen thérapeutique. » Et dans cet extrait, il souligne l'importance du phénomène de transfert en psychanalyse qui se réfère à cette tendance de l'analysant à projeter sur l'analyste les sentiments et les expériences passées. Il met en évidence la puissance du transfert et son impact sur la perception de la réalité extérieure, ainsi que son utilisation en tant qu'outil thérapeutique. La question du transfert ayant été largement et magnifiquement évoquée dans les podcasts précédents de cette émission, je n'y attarderai pas, sinon pour insister sur le fait que le travail sur le transfert est vraiment, véritablement, l'élément central du dispositif de la cure analytique. Mais revenons encore une fois à notre inconscient, et puis peut-être aussi à notre cerveau, parce que nous avons un cerveau. Plongeons, si vous le voulez bien, un instant dans les mystères des connexions invisibles qui se tissent entre les êtres humains. Vous savez, ces moments où vous rencontrez quelqu'un et puis vous vous sentez bien, immédiatement en phase, comme si vous dansiez sur la même longueur d'onde. C'est extrêmement étonnant et fascinant, mais ce n'est pas simplement votre imagination qui vous joue des tours, mais bien votre cerveau qui danse. Avant de nous plonger dans les neurosciences, dans des découvertes récentes, permettez-moi de vous offrir un tout petit cadeau, rien de moins qu'une symphonie neuronale. Il s'agit en l'occurrence de l'enregistrement réalisé par l'équipe de Maurizio Riga de l'Université de Barcelone, que le professeur Denis David, chercheur à l'Université Paris-Saclay, a eu la gentillesse de me confier. Écoutez attentivement. Il s'agit de la musique des neurones, plus précisément des décharges d'un neurone du cortex préfrontal de rongeur qui s'active en ayant été enregistré grâce à une technique sophistiquée d'électrophysiologie. C'est véritablement le son de l'éveil neuronal que vous écoutez maintenant. Et revenons à la recherche après cette symphonie neuronale. Sachez que des chercheurs de l'université de Princeton ont découvert que lorsque nous discutons avec quelqu'un, notre activité cérébrale se synchronise avec celle de notre interlocuteur. Rien de moins. Greg Stephens a publié dans la prestigieuse revue de l'Académie des sciences américaines en 2010 que lors d'une conversation en situation naturelle, l'activité cérébrale de l'auditeur se synchronise spatialement et temporellement avec celle du locuteur. Cette technique s'appelle l'hyperscanning. Ces auteurs sont même allés plus loin puisqu'ils ont pu montrer que l'activité cérébrale de l'auditeur est légèrement en avance sur celle du locuteur, comme si la personne qui écoutait quelqu'un parler était capable d'anticiper ce qui va être dit. Oui, vous avez bien entendu, nos cerveaux se mettent sur la même fréquence. C'est un peu comme si vous écoutiez une chanson entraînante et que vous ne pouviez pas vous empêcher de vous trémousser en rythme. C'est bien notre cerveau qui danse lorsque nous interagissons. Et ce n'est pas tout. Une chercheuse allemande, Vanessa Reindl, a mené une étude incroyable sur les connexions cérébrales entre parents et enfants. Elle a découvert que lorsque ces petits êtres adorables, âgés de 5 à 9 ans, jouent avec leurs parents, leur cerveau se synchronise avec celui de leur géniteur. C'est comme s'il se passait des messages secrets sans même ouvrir la bouche. Et devinez quoi ? Cette synchronisation ne se produit pas lorsqu'ils jouent contre leurs parents ou avec un étranger. C'est un peu comme si leur cerveau se mettait en mode super-héros uniquement lorsqu'ils sont en équipe, c'est-à-dire sur un mode coopératif. C'est en 2018 que Vanessa Reindl a publié ses résultats spectaculaires dans la non moins prestigieuse revue Neuroimage en utilisant une technique d'hyperscanning, elle aussi, qui consiste donc à enregistrer simultanément l'activité de deux cerveaux en interaction. Les enfants devaient donc soit jouer avec un adulte de manière coopérative, soit jouer contre l'adulte de manière compétitive, et cet adulte pouvait être leur parent ou un étranger. Et donc les résultats montraient un couplage, une synchronisation de l'activité cérébrale enfant-adulte au niveau préfrontal qui apparaissait à la condition que l'enfant coopère avec l'un de ses deux parents. Mais cette synchronisation cérébrale n'apparaissait pas lorsque l'enfant interagissait avec un étranger ou dans une situation de compétition avec son parent. Donc pour danser, il faut être à la fois en harmonie, en sécurité, avec une figure d'attachement et en coopération, se sentir bien. Plus proche de nous, à Paris, Jacqueline Nadel, directrice de recherche au CNRS, au centre Émotion, a par ailleurs récemment montré, chez des personnes avec autisme, ayant accepté un enregistrement simultané de leur cerveau en situation d'imitation, en alternance l'un est modèle puis l'autre imite les gestes de la première personne, que lorsque ces deux personnes s'imitent, les enregistrements hyperscan de leur cerveau ont tendance progressivement à se synchroniser. Les courbes se synchronisent. L'imitation serait donc l'une des pierres angulaires de la communication humaine, y compris dans l'autisme, le détour par l'autre permettant de construire une représentation de soi-même. Et puis, citons cette étude tout juste publiée en juillet 2023 par Fred Attila de l'université de Tilburg aux Pays-Bas, qui montre que la synchronisation neuronale de la dyade mère-enfant s'établit d'autant mieux que l'ambiance affective qui les environne est positive. Il faut donc, écrivait Marcel Proust, que dans le bonheur, nous formions des liens bien doux et bien forts de confiance et d'attachement pour que leur rupture nous cause le déchirement si précieux qui s'appelle le malheur. Et lui qui fut sans nul doute l'auteur qui décrivit le mieux et le plus justement la puissance des liens d'attachement, je cite, « perdu pour toujours, une existence, une tendresse, survivante en moi telle que je les avais connues, c'est-à-dire faite pour moi, un amour où tout trouvait tellement en moi son complément, son but, sa constante direction, que le génie de grands hommes, tous les génies qui avaient pu exister depuis le commencement du monde, n'eussent pas valu pour ma grand-mère un seul de mes défauts. » Un seul de mes défauts. Et évidemment, Marcel Proust écrit ceci bien avant les découvertes récentes des neurosciences, la découverte des neurones miroirs, les mécanismes cérébraux de l'empathie, les bases neurales de l'altruisme, et puis même bien avant nos philosophes, je pense à Emmanuel Lévinas, qui, nous invitant à considérer notre infinie responsabilité face au visage de l'autre, rendait d'une certaine façon hommage à Dostoïevski, qui faisait dire à l'un des nombreux personnages des frères Karamazov, son chef-d'œuvre absolu, je le cite, « Nous sommes responsables de tout et de chacun, et moi plus que les autres, et moi plus que les autres. » Ça résonne fort hein, pour un psy. C'est à la fois un fardeau et un grand privilège que de porter ce « et moi plus que les autres ». Et à l'heure, je crois, où nous craignons que l'intelligence artificielle, nos smartphones finissent par remplacer nos cerveaux, eh bien rassurons-nous, notre esprit est bien différent de ChatGPT. Il est déjà capable, à notre insu, de se synchroniser sur le cerveau des personnes que nous aimons pour faciliter l'harmonie émotionnelle sans même que nous nous en rendions compte, c'est-à-dire de façon inconsciente. L'amour, l'amitié, la complicité, l'humour ne se modélise pas. Certains prétendent que tenter l'union des neurosciences et de la psychanalyse est un mariage contre nature. Je ne le crois pas et j'espère avoir contribué à vous montrer que la mixité éclectique est souvent infiniment plus désirable que la pureté théorique et dogmatique. On peut tout à la fois explorer l'étage cérébral, une sorte de neuro-cupidon absolument fascinant qui vibre à l'unisson avec l'autre, tout en tentant de percer le grand et singulier mystère de l'esprit et de l'amour. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Pour apporter un tout petit peu de lumière à cette énigmatique formule que l'on prête à Lacan, permettez-moi de citer ici le docteur Juan David Nasio. Dans son très beau livre « De la douleur et de l'amour », il écrit « Il faut savoir que lorsque nous aimons toujours un être hybride, constitué à la fois par la personne extérieure que nous côtoyons au dehors et par sa présence fantasmée et inconsciente en nous. Et réciproquement, nous sommes pour lui le même être mixte, fait de chair et d'inconscient. Voilà pourquoi je vous parle du fantasme. C'est pour mieux comprendre que je ne souffrirai la douleur que de la disparition de celui qui a été pour moi ce que j'ai été pour lui, l'élu fantasmé. On n'est pas très loin d'ailleurs de la cristallisation et décristallisation de Stendhal. Je vous laisse méditer tout cela et pour conclure, gardons peut-être en mémoire que le fait de se sentir bien, de se sentir sur la même longueur d'onde que son interlocuteur, eh bien, ça n'est pas qu'une impression, c'est autant une communion des âmes qu'une réalité neurophysiologique. Oui, chers auditeurs, en vérité, nous avons sans doute pendant quelques minutes vibré à la même fréquence.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec David Gorion.
Restez à l'écoute, dans un instant je répondrai à toutes vos questions, mais tout de suite, voici Nicolas Michaud, Chaleur humaine, sur France Inter.
Perdu dans le cœur des foules, rien à faire là. Vos sirènes, vos sons, vos sous, je n'ai rien à faire là. Oh chérie, dis-moi quand tu viens. Oh chérie, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Que tout est chaleur humaine, que tout est chaleur humaine. Porte fruit. Noyé dans l'enfer des chiffres, je ne sais qu'en faire. On dirait que ma tête affiche s'en va boire un verre. Oh maman, dis-moi quand tu viens. Oh maman, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Tout est chaleur humaine, que tout est chaleur humaine. Porte fruit, porte fruit, oh porte fruit. J'attends dans la brume du soir, l'apocalypse. Chaque fois je crois la voir, et puis elle s'éclipse. Oh mon frère, dis-moi quand tu viens. Ouais, mon frère, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Que tout est chaleur humaine, que tout est chaleur humaine. Porte fruit, porte fruit, oh porte fruit.
Suivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
Bonjour, alors moi j'avais une petite question par rapport au podcast précédent. Je voulais savoir quelle est la signification de l'expression « être sur la même longueur d'onde » sur un plan neurophysiologique. Merci.
Bonjour Yasmine et merci pour votre question. Yasmine, imaginez-vous en train de discuter avec vos amis. Et vous avez peut-être remarqué que quand vous le faites, parfois il semble que vos esprits fonctionnent de manière similaire. On se sent vraiment en phase avec les autres, un peu comme si on se mettait sur la même longueur d'onde. On l'utilise d'ailleurs dans le langage courant, on est vraiment tous les deux sur la même longueur d'onde. Eh bien Magali, figurez-vous que des chercheurs en neurosciences essayent de comprendre comment cela fonctionne en utilisant une technologie bien particulière appelée l'hyperscanning. Et alors qu'est-ce que c'est que l'hyperscanning ? Eh bien bon, imaginez déjà que vous observiez deux cerveaux comme si c'était deux danseurs sur une piste de danse. Eh bien, l'hyperscanning nous permet de voir comment ces deux cerveaux, ces deux danseurs, bougent en harmonie, ou parfois d'ailleurs de manière différente, se désynchronisent lorsque d'autres les regardent ou interagissent avec eux. Et bien donc, cet hyperscanning, c'est une sorte de super microscope pour le cerveau qui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur des différentes régions, lorsque nous nous parlons, lorsque nous nous regardons, lorsque nous partageons des idées, lorsque nous sommes en conflit, lorsque nous nous aimons avec d'autres personnes. Et cette technologie qui est très très sophistiquée, et on parlera peut-être un tout petit peu d'intelligence artificielle puisqu'elle aide à analyser ces données d'une infinie complexité, nous aide aujourd'hui à mieux comprendre comment nos cerveaux se synchronisent lorsque nous interagissons socialement. Et ça a aussi une importance en médecine, en psychiatrie, on le verra notamment dans les questions permettant de mieux comprendre, par exemple, des pathologies comme l'autisme. Alors, l'hyperscanning, pour étudier ce phénomène, eh bien, les chercheurs utilisent des techniques d'imagerie cérébrale, telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Vous en avez entendu parler, c'est l'IRM, mais là, c'est l'IRMF fonctionnelle, ou bien l'électroencéphalographie EEG, la magnétoencéphalographie, ou encore l'imagerie spectroscopique par infrarouge fonctionnelle. J'arrête parce que là, on rentre dans des termes techniques et je vais tous vous perdre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces techniques permettent de mesurer de façon extrêmement fine, et dans le temps et dans l'espace, l'activité cérébrale en temps réel, tout en tenant compte de la simultanéité des interactions sociales. Et du coup, la synchronisation cérébrale se manifeste par une coordination temporale des signaux électriques enregistrés à l'aide de ces technologies sophistiquées qu'on analyse ensuite. Alors, pour comprendre l'histoire de cette technologie, elle est assez récente et l'une des premières études d'hyperscanning a été dirigée par le physicien Reed Montagu de Virginia Tech il y a environ 2 décennies. Dans cette étude, 2 participants, Magali, avaient été placés dans des machines d'imagerie cérébrale distinctes et ils devaient s'engager dans une tâche où il s'agissait d'essayer de deviner ce que l'autre était en train de choisir ou pas et si sa réponse était véridique ou non. Et c'est comme ça, en enregistrant leur cerveau, qu'on a pu mieux comprendre la façon dont les cerveaux interagissent pendant les échanges sociaux. Et puis, plus récemment, eh bien, on entend quotidiennement parler aujourd'hui des progrès de l'intelligence artificielle. Eh bien, elle a été intégrée à l'hyperscanning pour justement mieux comprendre les données, parce que vous imaginez la masse considérable de données qu'il faut analyser. Et en particulier, des chercheurs du MIT ont développé une technologie capable d'enregistrer, d'analyser les données cérébrales avec une rapidité de traitement absolument considérable et qu'on utilise d'ailleurs dans d'autres domaines de la médecine ou de la chirurgie. Et l'importance de tout ça, au-delà de mieux comprendre ce qu'on appelle les neurosciences de la cognition sociale, eh bien, c'est aussi de mieux comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, les liens sociaux et aussi certains troubles. Pourquoi dans l'autisme, c'est peut-être plus difficile de comprendre l'autre, de lire l'autre, d'avoir une théorie de l'esprit. Il y a aussi tout ce sujet des neurones miroirs dont nous reparlerons. Et en tout cas, Magali, continuez d'être sur la même longueur d'onde que vos amis et que ceux que vous aimez. Merci pour votre question.
Moi, je me demandais, lorsqu'on a une conversation avec quelqu'un, comment est-ce que notre cerveau se synchronise à celui de notre interlocuteur et surtout, quel impact ça peut avoir sur nos relations sociales ?
Mais c'est une question, merci, hein, passionnante et puis qui rejoint directement celle de Magali. On mesure cette synchronisation. On ne sait pas encore tout à fait bien l'expliquer. D'ailleurs, on mesure aussi une synchronisation même extrêmement tôt entre l'enfant, le petit enfant, voire même on a des données maintenant chez le bébé et sa maman. Donc c'est pas uniquement par le langage, par la compréhension des mots, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus profond via le lien, via l'attachement, via le corps, via le regard, via peut-être aussi les odeurs. On s'intéresse aussi au rôle des hormones, de l'ocytocine, etc. Donc pour l'instant, peut-être qu'on ne peut pas totalement répondre à votre question. On a des petites pièces du puzzle, mais l'énigme reste encore complexe et mystérieuse autant que l'âme humaine.
Bonjour, je suis Nathalie, j'habite la région lyonnaise, j'ai 55 ans. Je souhaite savoir si parmi les explications de ce qui nous attire ou pas vers une personne, les liens subtils qui font pourtant partie plutôt de l'ordre de la spiritualité ou de l'ordre de l'ésotérisme peuvent nous donner des pistes d'explication. Merci.
Merci Nathalie pour votre question. Alors je Je suis un peu désolé, je suis pas du tout un spécialiste de l'ésotérisme et je crains de vous décevoir un peu par ma réponse. Néanmoins, je pense qu'elle aborde un aspect absolument passionnant, et d'ailleurs on sait pas tout, la science ne sait pas tout, des relations humaines qui touchent à la fois la psychologie et la spiritualité. D'ailleurs, on peut avoir un sens de la spiritualité, de la transcendance, sans être croyant. Les philosophes l'ont bien décrit, donc je crois que cette dimension de transcendance ou de spiritualité, le sens du sacré, on a tous pu le ressentir, même sans être croyant, par exemple en rentrant dans un lieu sacré, dans une église, dans quelque chose comme ça. Et en effet, les liens subtils, les attractions que nous ressentons envers les autres peuvent être interprétées de différentes manières. Il n'y a pas une façon univoque. Ce serait du pur positivisme scientifique de dire, voilà, on sait, c'est comme ça, ça marche comme ça, le cerveau, l'ocytocine, etc. Pas du tout. C'est infiniment plus complexe. La nature humaine demeure mystérieuse et irréductible. Et la littérature, la poésie nous le disent, pas que l'ésotérisme. Et je pense que cela dépend en grande partie de la perspective personnelle de chacun. Alors, évidemment, il y a la dimension de connexion, de lien, de connexion émotionnelle. On en a déjà beaucoup parlé, notre personnalité, de ce qui fait que nous ressentons des atomes crochus les uns envers les autres. Il y a tout un domaine, la biologie ou la chimie des relations. On a tout petit peu parlé d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, la dopamine, qui peuvent évidemment contribuer à renforcer les liens. Il y a des gens qui nous font du bien, et on le sent même physiquement. Mais cette question de la spiritualité, de la transcendance, peut être aussi abordée. Alors, moi, je vais pas vous parler des connexions karmiques, je n'y connais rien, mais certains disent, moi j'ai rencontré l'âme sœur. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme sœur? Comme si il y avait un dialogue d'âme à âme. Et il y a quelque chose d'assez intéressant, d'assez mystérieux, qui en tout cas, peut-être nous échappe encore un peu. Et puis il y a ces domaines un peu, encore un peu, ces zones sombres, ces zones grises de la littérature scientifique, sont le domaine notamment de l'intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Qu'est-ce que nous percevons? Alors, on peut ou pas croire aux énergies, aux choses. Voilà, moi, je suis médecin, j'ai une formation très scientifique, très, très, très cartésienne, mais je pense qu'il nous reste encore bien des choses à découvrir et à comprendre. Et peut-être aussi au travers, je redis, de la littérature et de la poésie et de l'art. Merci pour votre question.
Bonjour, c'est Jules. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre émission et j'avais une question à poser. On dit que l'IA ne peut pas remplacer l'homme et donc les psys parce qu'elle n'a pas d'humour. Mais il existe quand même des psys qui n'ont pas d'humour.
Merci Jules pour cette question, elle est excellente. Je sens Jules que vous n'êtes pas dépourvu vous-même d'humour. Alors c'est une question que vous posez qui est aussi complexe que l'esprit humain. Je ne sais pas si on a 2 heures pour y répondre. Moi je crois que pour l'instant l'intelligence artificielle a du mal à maîtriser l'humour. Elle a parfois tendance à faire des blagues qui sont sans doute seulement comprises par les robots, si tant est qu'ils puissent les comprendre et en rire. Quant au psy, Jules, parce que je sens qu'en filigrane derrière votre question, il y a une certaine ironie. Je crois que vous êtes en train de nous brocarder, les psys, et c'est vrai que parfois nous manquons un peu d'humour. Peut-être que nous sommes parfois un peu ces rats de bibliothèque ou ces oiseaux rares qui sommes un peu coincés dans nos livres, nos ouvrages, nos manuels depuis trop longtemps. Mais Jules, ne désespérons pas, il y a de l'espoir. Les psys aussi peuvent avoir de l'humour. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, l'IA nous aidera en développant une compétence humoristique étonnante qui pourra même nous aider à nous détendre un peu, qui sait. En tout cas, Jules, la différence entre l'IA et nous, eh bien, c'est que nous sommes imparfaits, et je crois qu'il faut revendiquer cette imperfection, en être fier, parce que de chair et de sang, d'âme et de poésie, et non pas de circuit et d'algorithme. Revendiquons, Jules, cette imperfection, cet humour. L'important, c'est que chacun de nous apporte sa propre touche au monde, qu'elle soit drôle, sérieuse, quelque part entre les deux, et qui sait, peut-être qu'un jour, un psy robotique, Jules, nous surprendra avec une blague qui nous fera vraiment rire. Pour l'instant, je crois qu'on en est encore très très loin, et en attendant, gardons notre sens de l'humour intact, même et surtout s'il est un peu imparfait.
Dominique, bonjour. Je vous remercie pour cette émission et je vous ai écouté très très attentivement. Je vous ai écouté d'autant plus que je me sens concernée par l'histoire de Juliette, les orages et les tempêtes violents en moins. Et donc, dans cette réflexion, vous évoquez l'importance de la tentative d'établir un lien. Et visiblement, ce n'est pas toujours facile. Dans l'hypothèse où ce lien réussit à se tisser, Je me pose la question, qu'en est-il dans la durée? C'est-à-dire, quel effet dans la durée ce travail apporte, à savoir, est-ce que ça répare, est-ce que ça construit, est-ce que ça reconstruit, est-ce que ça permet une certaine résilience, comme l'évoque Boris Cyrulnik? Et cette question me travaille d'autant plus que la thérapie que j'ai entreprise a pris fin de façon brutale, parce que j'ai appris de façon inopinée que mon psy allait partir à la retraite dans 2 mois. Ce psy n'a pas eu la responsabilité de m'en informer lui-même, ce qui a généré chez moi un certain choc. Je peux comprendre qu'on parte à la retraite, je peux difficilement comprendre qu'on n'ait pas l'honnêteté d'informer ses patients. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus sur la durée dans le temps du lien que vous tissez, ce qu'il permet, et lorsque ce lien, ma foi, de façon brutale, est coupé, est-ce que donc il en reste quelque chose, ou est-ce que le fait qu'il soit coupé brutalement, et bien du coup, tout le travail mené s'écroule comme un château de cartes? Merci.
Merci Dominique pour cette question très très importante, et on sent l'émotion et d'ailleurs peut-être même un peu la colère qu'on peut comprendre, qui est légitime. On parlait tout à l'heure des psys qui manquent parfois un peu d'humour, parfois ils manquent aussi de continuité dans leur prise en charge. Vous posez cette question très importante, je crois, et je comprends d'ailleurs votre préoccupation concernant la durabilité des liens thérapeutiques et l'impact qu'une rupture aussi abrupte que celle que vous avez vécu lorsque votre psy est parti à la retraite. Et moi, je pense que, en tant que psychiatre, ou psy, ou médecin, ou toute personne impliquée dans les soins, on doit être extrêmement conscient de l'importance du rôle que la relation joue et de l'importance, et parfois elle doit s'arrêter, soit parce que la thérapie est terminée, soit parce que on part à la retraite, ou qu'on a un souci, une maladie, ou parce que on veut réorienter, eh bien ça doit être accompagné évidemment de façon sous la forme d'une transition douce et d'un accompagnement qui fait évidemment éminemment partie de notre rôle. Alors je pense que ça soulève évidemment l'importance fondamentale du lien thérapeutique, le lien entre le patient et le thérapeute, et souvent considéré comme l'un des facteurs les plus importants pour le succès d'une thérapie. Il crée un environnement de confiance où on se sent en sécurité pour explorer ses pensées, ses émotions, et donc on peut comprendre l'expérience traumatique vécue lorsque ça s'arrête. On a pu montrer aussi les effets à long terme d'une thérapie. La thérapie a évidemment plus de chances d'avoir un impact significatif à long terme sur la vie d'un individu, qu'elle a été suivie dans le temps et qu'elle a permis de faire face à différents défis, de développer des compétences émotionnel, psychosocial, d'habileté sociale, d'affirmation de soi, d'estime de soi, pour favoriser sa propre croissance. Il y a un impact aussi, évidemment, sur les mécanismes de réparation, des traumas, de construction, de résilience. Je crois que la thérapie, dans la durée, peut jouer un rôle extrêmement significatif pour nous aider à grandir dans toutes ces dimensions. Et en effet, la rupture du lien thérapeutique et cette rupture abrupte que vous décrivez peut être extrêmement difficile à vivre pour un patient, peut avoir parfois même des conséquences absolument dramatiques. J'ai des histoires de patients qui ont commis une tentative de suicide ou qui ont été en dépression après une rupture brutale non annoncée, comme vous l'avez décrit. Donc c'est vraiment quelque chose, la continuité des soins qui doit être assurée, qui fait partie des rôles et de la responsabilité. J'insiste sur ce mot, quand on fait le choix d'être un soignant, psy, médecin, chirurgien, on est engagé auprès du patient, on a une responsabilité morale, éthique, profonde vis-à-vis de cette personne. Donc en résumé, merci pour votre question et rappelons à tous que le lien thérapeutique a certes des effets durables, mais il peut aussi rendre vulnérable aux ruptures inattendues, et donc il est très important de s'assurer d'avoir une continuité. Et si on fait une transition, que cette transition soit douce et accompagnée.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec David Gorion.
Et nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
Merci pour cette émission très très riche. Pouvez-vous nous dire, docteur Gorion, si la citation de Proust est un hommage à votre propre grand-mère ?
Merci Émilie pour cette question touchante, émouvante. Évidemment, c'est un hommage à ma grand-mère Claudine, dont je voyais dans les yeux ce que Proust décrivait très bien. Dans la recherche du temps perdu, et d'ailleurs il faut lire et relire cette œuvre parce qu'il y a tout chez Proust, il y a vraiment absolument tout, eh bien il décrit bien avant nous les psys ce qu'on appelle aujourd'hui l'amour inconditionnel que sa grand-mère éprouvait pour lui de manière extrêmement touchante, et il le dit avec des mots, une formulation que seul lui peut avoir avec le génie qui est le sien. Il souligne comment sa grand-mère le chérissait profondément. Elle le voyait d'ailleurs, il dit, très au-dessus, même quand il disait une absurdité, très au-dessus de tous les génies qui ont pu peupler l'humanité depuis le début de cette dernière. Et puis il explique comment cet amour inconditionnel a eu un impact extrêmement profond, significatif sur toute son existence. C'est un exemple vraiment paradigmatique de l'importance des relations familiales dans le développement de notre psyché. Et je crois que l'amour inconditionnel d'un grand-parent peut être une source de soutien émotionnel précieux. Ça peut nous donner une force pour toute l'existence. Ça peut contribuer à nous rendre plus solides. Et ça peut contribuer à notre bien-être émotionnel, même quand cette grand-mère, hélas, est décédée, comme c'est le cas de la mienne. Je me souviens extrêmement bien du regard qu'elle portait sur moi. Je crois que j'aurais pu faire n'importe quoi. J'aurais pu décapiter des gens. Eh bien, elle aurait continué de me regarder de la même façon. Merci pour votre question.
Bonjour et merci pour ce très intéressant épisode de l'inconscient. Vous citez Dostoïevski, Proust, Stendhal. Je voudrais savoir si vous estimez que la psychiatrie, la psychanalyse et la psychologie ont à apprendre de la littérature. Et si oui, est-ce que vous pouvez donner un exemple ? Merci.
Merci Chloé pour cette belle question, et je perçois chez vous la littéraire que vous êtes sans doute. Et d'ailleurs, je crois que le choix de la psychiatrie quand on fait des études de médecine de sciences, c'est aussi parce qu'on a envie d'être à la croisée des chemins des sciences humaines et des sciences de la vie. Oui, bien sûr, il y a tout dans la littérature et très tôt en fait. Hein, il suffit de relire Sophocle pour voir que il avait déjà tout compris de l'importance de la psychologie humaine. Je repense au frère Karamazov, là aussi il y a tout chez Dostoïevski. On disait qu'il y a tout chez Proust, il y a aussi tout chez Dostoïevski. Alors moi je crois que on pourrait citer Balzac, incroyable Balzac, il y a toute l'hystérie est décrite chez Emma dans Madame Bovary. Enfin bon, la littérature c'est un manuel de psychiatrie ouvert à tous, et les psychiatres et les jeunes psychiatres, je leur dis, hein, quand on fait des cours aux internes, lisez, relisez la littérature, relisez Sophocle, relisez Dostoïevski, Shakespeare, il y a tout est là, et de façon bien plus intelligente que dans nos manuels. Il y a cette exploration des profondeurs de la psyché, des ressorts profonds de l'inconscient et des dynamiques complexes. Et puis, peut-être que s'il y a un manuel de psychiatrie qui n'est pas un manuel de psychiatrie, mais qui est un roman absolument génial, si vous voulez vous familiariser avec ce que c'est que la psychologie humaine et que vous pouvez lire ou relire si vous ne l'avez pas lu, c'est Anna Karénine de Tolstoï, parce que là aussi on a absolument tout, on a la dépression, on a la complexité de la personnalité humaine, le côté multifacette, l'adultère, la pression sociale, la quête du bonheur, et je crois que les professionnels de santé mentale devraient relire, analyser, mieux analyser le personnage d'Anna pour comprendre les implications de ses choix, de son état émotionnel sur sa santé mentale, et ça pourrait peut-être nous aider à mieux soigner les Anna Karénines contemporaines.
Bonjour David, Grégoire. Je suis quelqu'un qui est plutôt apprécié, autour de moi, etc., etc. Sauf que je n'arrive pas à me faire de copains, du moins les conserver sur le temps. Et je pense à l'une de ces causes, qui est que lorsque j'avais 10-12 ans, j'ai coupé tout contact avec mes copains d'enfance quand j'ai appris que mon père était pédophile. La honte et compagnie ont dû jouer, et j'aimerais savoir un petit peu ce que vous en pensez à partir du moment où je souffre, entre guillemets, de ne pas avoir beaucoup de copains. Ça signifie en fait que je n'en ai quasiment pas, et j'ai beau tenter, je n'arrive pas. Et ce sont surtout des copains de voyage avec qui j'entretiens des relations à long terme. Voilà. Merci.
Merci à vous, Grégoire, pour cette question courageuse. Je crois qu'on est à un moment où la parole se libère, on le voit, on l'entend de plus en plus, et c'est une tellement bonne chose, ça fait tellement de bien, et je pense que vous puissiez avoir le courage de poser cette question-là, mais je pense à toutes aussi les révélations récentes d'Emmanuel Béard, la famille Lagrande, etc. On est à ce moment précis de l'histoire, peut-être quelque chose peut bouger, peut changer dans les représentations et dans les mentalités. Moi, je crois que, au vu de ce que vous décrivez, on comprend, on ne peut que comprendre la souffrance, la difficulté que vous éprouvez à établir, à conserver des amitiés durables, en particulier à la suite de l'expérience traumatique liée à la révélation que vous faites sur votre père. Alors, il est tout à fait normal que des événements traumatisants de l'enfance puissent avoir un impact durable sur nos relations et notre bien-être émotionnel. On l'a décrit notamment tout à l'heure avec les aspects de théorie de l'attachement. Et au fond, ce que vous éprouvez est parfaitement normal, votre développement à vous est parfaitement normal. Ce qui est anormal, c'est ce que vous avez vécu, et c'est le traumatisme lié à la situation de votre père. Et on sait que ces traumatismes-là ont un impact, les expériences traumatisantes de l'enfance, comme celles que vous avez mentionnées, ont un impact, peuvent avoir un impact significatif sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur la capacité à établir, à nouer des relations, à maintenir dans le temps des relations de confiance avec les autres. C'est très dépendant d'une personne à une autre, d'une personnalité à une autre. C'est évolutif au cours du temps parce que, heureusement, nous sommes des êtres dynamiques. Et puis, au gré des rencontres, des belles rencontres, ou parfois des plus difficiles, des conflits, de ce qui va nous construire aussi dans nos vies professionnelles, personnelles, culturelles, cultuelles, spirituelles. On a parlé tout à l'heure de ça, artistique. On peut aussi, et des thérapies, évidemment, modifier tout ceci. Mais il est vraiment courant de ressentir, et c'est ce que mes patients me disent quand ils sont dans la même situation que la vôtre, il est courant, normal, de ressentir de la culpabilité et d'avoir évidemment, alors même qu'on y est évidemment pour rien, hein, on est la victime de ça, mais ça a des effets sur l'image de soi, ça peut affecter sa propre représentation, qui suis-je si mon père était ainsi, comment je peux construire ma propre identité. Et du coup, ça peut aussi altérer ce qu'on appelle les compétences sociales, la façon dont je noue des relations sociales, et la capacité à avoir confiance en moi, à communiquer, et ce qu'on appelle les stratégies de résolution de conflits. Et puis, je crois qu'il est très important, quand on a vécu ce que vous avez vécu, eh bien, de se faire aider, de consulter un professionnel de la santé mentale, un ou une psychologue, un ou une psychiatre, pour vous aider à travailler sur les processus de réparation, de guérison émotionnelle, pouvoir avancer et du coup vous aider aussi à maintenir des liens d'attachement et des amitiés plus simples et plus stables et plus durables dans le temps, parce que nous sommes des êtres de liens et que ces liens nous construisent, hein, et on n'a pas attendu les psys pour nous le dire. Montaigne l'a tellement bien dit. Alors on connaît son parce que c'était moi, parce que c'était lui avec la Boétie, mais il a dit quelque chose d'autre qui est souvent moins cité mais que je trouve tellement beau, c'est avoir un ami, c'est être deux fois. Eh bien je vous souhaite de rencontrer comme Montaigne l'a fait avec la Boétie l'amitié, parce que c'est tellement fondamental dans nos vies. Bon courage à vous, merci. Pour vos questions. Et merci à Dofar Guérid à la technique, Valentine Chedebois pour la programmation musicale, Franck Olivard qui récolte vos questions et Anaïs Reinhardt pour la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Jean-Pierre Winter. D'ici là, vous pouvez déjà écouter son podcast sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute et lui poser des questions par note vocale ou sur le répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 15 octobre pour mon prochain épisode.